C'est l'heure du journal. Aurélie Kiefer, bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Emmanuel Macron et Angela Merkel font leur proposition commune pour l'Europe. Le président se réjouit d'avoir scellé avec l'Allemagne un accord majeur sur le renforcement de la zone euro. Il appelle par ailleurs avec la chancelière à une réponse européenne face aux défis migratoires. Alors que le Sénat veut durcir la loi Asile-Immigration, Médecins du Monde et le Centre Primo Levi publient un rapport sur la souffrance psychique des exilés et plaident pour une meilleure prise en charge des migrants. Les syndicats contestent toujours la réforme ferroviaire, mais il n'y aura pas de grève unitaire au mois de juillet. L'UNSA sortira du mouvement le 28 juin. L'Ordre des médecins intervient dans le débat sur l'homéopathie. C'est une pratique non éprouvée par la science, souligne le Conseil national de l'Ordre, mais il ne prend pas de position sur son éventuel déremboursement. Fragilisée par le Brexit et les dissensions sur la politique migratoire, l'Union européenne est à un tournant. Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont retrouvés aujourd'hui près de Berlin pour préparer le Conseil européen des 28 et 29 juin. Alors que la chancelière est chahutée par ses alliés conservateurs, il était essentiel pour les deux dirigeants d'afficher leur unité. Cyril Sauvageau, vous étiez à la conférence de presse d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel à l'issue de leur rencontre. Ils affirment ce soir avoir scellé un accord majeur sur le renforcement de la zone euro.
Et cet accord, il était attendu, hein, les ministres des Finances français et allemands y travaillent depuis plusieurs semaines. Oui, cet accord était attendu, les ministres... Le ministre des Finances y travaille depuis plusieurs semaines. Un budget propre à la zone euro, il sera mis en place à partir de 2021 avec un double objectif, favoriser les investissements communs et protéger les États les plus fragiles en cas de choc. Beaucoup de questions, hein. Le montant de ce budget n'est pas...
Alors Cyril, on vous a perdu. Le montant du budget, non.
Et l'Allemagne n'avait réussi... Alors, à s'entendre. L'accord franco-allemand vise aussi à renforcer...
Cyril, on vous a complètement perdu au moment où vous parliez du budget, du montant du budget.
Oui. Alors le montant justement n'est pas encore précis. Ça fait partie des questions qui sont encore posées, mais en tout cas, la volonté franco-allemande est là d'arriver à s'entendre sur ce sujet sur lequel les deux pays ont longtemps eu beaucoup de mal à trouver une position commune. Et puis, il y a la volonté de renforcer la stabilité de la zone euro avec plusieurs outils, la refonte du mécanisme de stabilité et le pas rachève. De l'union bancaire. L'Allemagne a donc accepté de faire un pas significatif en direction de la France.
Et l'autre dossier majeur, Cyril, c'est bien sûr l'accueil des migrants. Pour Angela Merkel et Emmanuel Macron, le défi migratoire nécessite une réponse européenne. Alors là, très long silence, donc il doit y avoir une rupture. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, ça y est, je vous entends. Oui, je vous entends. Oui, alors, ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est que l'Europe est face à un choix de civilisation, un choix entre ceux qui veulent détricoter l'Europe et ceux qui veulent la faire avancer, la rendre plus souveraine et plus unie. Mais le couple franco-allemand est resté prudent sur les propositions concrètes en réponse aux défis migratoires. L'idée, par exemple, de renforcer les effectifs de Frontex, l'agence de contrôle aux frontières, c'est une proposition de la Commission de Bruxelles. Paris et Berlin la soutiennent, mais ce n'est pas une surprise. Et puis, Angela Merkel, Emmanuel Macron...
Bon alors là, décidément, on a beaucoup de mal à vous joindre. Cyril Sauvageau, c'est normal puisque vous avez suivi ce sommet franco-allemand depuis le château de Messerberg et non pas depuis votre bureau de Berlin. On vous retrouvera dans le journal de 22h. En France, le projet de loi Asile et Immigration est maintenant examiné par les sénateurs. Le texte veut réduire les délais des procédures d'asile, renforcer la lutte contre l'immigration irrégulière et sécuriser le droit au séjour des étrangers en situation régulière. Et la droite majoritaire au Sénat veut aller au-delà, ce qui suscite la colère de la gauche et des associations qui viennent en aide aux migrants, Tiphaine Honoré.
Oui, cet après-midi, c'était les magistrats de la Cour nationale du droit d'asile qui manifestaient devant le Sénat. Ils ne digèrent pas la réduction de moitié du délai de recours pour les déboutés.
Il faut qu'on continue le combat, qu'on tourne en France dans les centres de rétention, dans les zones d'attente. C'est inadmissible.
À l'intérieur, le ton est beaucoup plus feutré. La ministre Jacqueline Gourault défend devant les sénateurs un texte selon elle équilibré et surtout qui répond aux attentes des Français.
Les mesures que nous allons examiner visent aussi à lutter contre l'immigration illégale, ce qui correspond, vous le mesurez dans vos territoires, à une aspiration forte exprimée par nos concitoyens, aspiration à laquelle nous devons répondre si nous ne voulons pas que demain, tous les populismes grandissent encore dans notre pays.
Ce qui ne l'empêche pas de regretter certains amendements ajoutés par les sénateurs de droite notamment.
Vous proposez de supprimer l'aide médicale d'État et de la remplacer par une aide médicale d'urgence dont le panier de soins serait plus réduit. Là aussi, le gouvernement ne saurait admettre une telle régression des droits des personnes qui aurait pour conséquence, en réduisant les soins accordés aux étrangers, d'accroître les risques pour la santé publique d'une manière générale.
Un durcissement du texte revendiqué par les Républicains comme Jérôme Bascher.
Ça fait des années qu'on dit que c'est trop long pour avoir l'autorisation d'être demandeur d'asile. Aujourd'hui, on va raccourcir les délais et on va obliger à partir du territoire. C'est ça, c'est là le durcissement.
Un projet de loi jugé au contraire inhumain par Éliane Assassi, sénatrice communiste.
Je l'affirme, un mineur, même étranger, n'est pas un migrant. C'est un enfant, et ce, jusqu'à l'âge de sa majorité. Nous lui devons donc aide et protection. Et le Sénat s'honorerait en supprimant l'article 15 quater sur la durée de placement en rétention pour 5 jours des familles. Donc, qui dit famille, dit enfant.
On l'entend, les débats s'annoncent houleux jusqu'au vote mardi prochain.
Tiphaine Honoré, le projet de loi Asile et Immigration durcit considérablement l'accès au séjour et à l'asile, ainsi que les conditions d'accueil et d'expulsion des exilés en France. C'est ce que regrettent Médecins du Monde et le Centre Primo Levi. À la veille de la Journée mondiale des réfugiés, ils publient ensemble un rapport intitulé « La souffrance psychique des exilés, une urgence de santé publique ». Dans ce rapport, Antoine Maret, il souligne le très lourd fardeau que représente la souffrance psychique des migrants arrivés en France et ils font un constat d'impuissance.
Effectivement, bien souvent, les migrants ont quitté leur pays après avoir subi des violences, violences auxquelles ils sont à nouveau confrontés dans leur parcours d'exil. Et puis, il y a l'arrivée en France, avec bien souvent la rue au bout du voyage. Et tout cela occasionne de la souffrance psychique pour ces exilés. Antoine Ricard est le président du Centre Primo Levi.
Cette fragilité psychique, voire ces pathologies psychiques, vont avoir toute une série d'impacts négatifs sur la capacité de ces personnes à faire valoir leurs droits, s'intégrer, interagir avec la société, apprendre le français. On pourrait multiplier les exemples de tous ces sujets qui sont absolument clés pour une intégration réussie et pour un accueil réussi aussi.
Et ces migrants ont bien souvent du mal à mettre des mots sur ces blessures de l'âme. Elles ne sont pas apparentes et leur détresse matérielle constitue un frein à une prise en charge médicale. Et puis, il y a bien souvent la barrière de la langue.
Il faut être capable d'exprimer des choses qui sont difficiles à décrire pour la personne elle-même. Je veux dire, la personne elle-même n'est pas une spécialiste de ce qu'est le psychotrauma, de ce qu'est la blessure psychique. Donc déjà difficile à décrire pour la personne elle-même et impossible à décrire quand la langue n'est pas au service de cette description. On est sur des sujets qui sont extrêmement complexes et l'interprétariat, c'est un sujet qui est absolument clé pour pouvoir décrire des choses qui, par nature, sont déjà difficiles à décrire.
Une fois que la barrière de la langue est franchie, le travail du psychiatre peut commencer. Daniel Breyer est psychiatre à Médecins du Monde. Il prend la charge des personnes migrantes.
Il y a d'abord à les écouter, qu'elles déchargent un peu toutes leurs souffrances, et c'est déjà un premier soulagement. Ensuite, essayer de mettre des mots sur ce qu'elles ont vécu, parce que c'est souvent des scènes, des images qui restent, et les mots permettent déjà une première distance. Enfin, c'est d'essayer de remettre un espèce de fil conducteur dans leur vie, de remettre un peu de continuité dans leur vie qui a été faite de ruptures itératives.
Médecins du Monde et le Centre Primo Levi estiment que la santé mentale des migrants est devenue une urgence de santé publique. Les deux organisations réclament notamment l'augmentation du budget alloué aux agences régionales de santé.
Antoine Maret. C'est une première en Argentine. Un homme a été condamné à la prison à perpétuité pour un travesticide, comprenez l'assassinat d'une personne, en l'occurrence une femme, en raison de sa transsexualité. Fanny Bouvard, ce verdict était particulièrement attendu en Argentine, après un procès qualifié d'historique, aussi bien par les juristes que parmi les militants de la cause LGBT.
Oui, et c'est d'abord lié à l'identité de la victime, tuée de 13 coups de couteau en octobre 2015, dans son appartement de Buenos Aires. Diana Sakashan était une figure de la communauté transsexuelle, très présente dans les médias et la sphère politique depuis une quinzaine d'années. Cette militante a participé notamment à la rédaction de plusieurs lois pour les droits LGBT. Son assassinat par un homme qu'elle fréquentait occasionnellement a donc suscité une vague d'indignation dans le pays et le procès a été logiquement très suivi. Il marque d'ailleurs un véritable tournant juridique. Vous l'avez dit, c'est la première fois en Argentine qu'une personne a été condamnée pour un travesticide. On peut aussi parler de transféminicide. Cette circonstance aggravante existe depuis 2012 dans le code pénal argentin. Argentin, mais jusque-là, elle n'avait pas été appliquée. Les associations LGBT, les avocats de la famille de Diana Sakachan, mais aussi les procureurs, se sont donc battus pour qu'elle soit reconnue lors de ce procès. Une façon, pour eux, de rendre encore plus visibles, je cite, les violences subies par les transsexuels. Car elles persistent dans le pays, malgré l'entrée en vigueur ces dernières années de lois de plus en plus protectrices et pionnières en Amérique latine. Si l'on en croit les chiffres de l'association Transgender Europe, qui comptabilise les meurtres de personnes trans dans le monde entier, d'octobre 2016 à septembre 2017, il y a eu 325 crimes, dont 82% en Amérique latine. Et l'Argentine arrive en sixième position dans ce triste classement.
Merci Fanny Bouvard. Et pour l'Organisation mondiale de la santé, le transsexualisme ne doit plus être considéré comme une maladie mentale. En France, le défenseur des droits va enquêter sur les pratiques du service d'adoption du département de la Seine-Maritime. À une journaliste qui se renseignait sur les difficultés rencontrées par les couples homosexuels souhaitant adopter, la responsable du service d'adoption a expliqué que ces couples étaient un peu atypiques par rapport à la norme sociale et à la norme biologique. Ils avaient donc la possibilité d'adopter des enfants atypiques, c'est-à-dire, et je la cite, des enfants dont personne ne veut, des enfants trop cassés, trop perturbés psychologiquement, trop grands, trop handicapés. Le président du département de Seine-Maritime, l'UDI Pascal Martin a condamné très fermement les propos de la fonctionnaire. L'association des familles homoparentales n'en a pas moins porté plainte auprès du procureur de la République de Rouen. L'Ordre des médecins publie une mise au point sur l'homéopathie. En mars dernier, 124 médecins avaient réclamé le déremboursement de cette discipline qu'ils qualifient d'ésotérique. Depuis, le débat est régulièrement relancé. Il y a les pros et les anti-homéopathie. Aujourd'hui, Tara Schlegel, l'Ordre des médecins dit clairement que l'homéopathie ne doit pas être le premier remède proposé à un patient.
Oui, ces médecines, baptisées souvent alternatives et complémentaires, portent un nom qui prête même à confusion, dit le Conseil de l'Ordre, car toute prescription médicale doit impliquer une démarche initiale de diagnostic clinique et proposer un traitement lui-même conforme, je cite, « aux données acquises de la science ». Or, le communiqué rappelle en conclusion qu'il est interdit à un praticien de présenter comme salutaire et sans danger des prises en charge non éprouvées. Autrement dit, l'efficacité de l'homéopathie n'ayant pas été évaluée scientifiquement de façon satisfaisante, le Conseil national de l'Ordre réaffirme qu'il faut d'abord passer par un traitement allopathique avant d'ajouter, si besoin, en conscience, dit le communiqué, une prescription complémentaire. C'est donc une prise de distance vis-à-vis de ces médecines douces qui entrent dans le cadre de la polémique que vous avez citée, Aurélie. Mi-mars, 124 médecins demandent au Conseil de l'Ordre de ne plus valider ces pratiques qui promettent, je cite les anti, des guérisons miraculeuses. Un mois plus tard, la ministre de la Santé dit sur RMC, si cela peut éviter d'utiliser des médicaments toxiques, je pense que nous y gagnons collectivement. C'était donc un point pour les pro-homéopathie. Mais le point de vue d'Agnès Buzyn semble avoir changé puisque fin mai, elle affirmait qu'il fallait ouvrir le débat sur le remboursement des médicaments en fonction de leur utilité. Peut-être l'homéopathie pourrait-elle entrer dans le droit commun pour être évaluée et si elle est utile, elle restera remboursée, a dit la ministre. Le dossier est donc ouvert. Actuellement, tous les généralistes et spécialistes en France peuvent prescrire ces granules remboursées pour certaines à hauteur de 30% par l'assurance maladie.
Arrache Schlegel. Même si elle reste mobilisée contre la réforme ferroviaire, l'UNSA ne poursuivra pas la grève au-delà du 28 juin. Les syndicats de cheminots sont réunis en ce moment pour discuter de l'avenir du mouvement. Sauront-ils s'accorder sur une position commune? A priori, non. La CGT cheminots, qui avait proposé de faire grève les 2, 6 et 7 juillet, va peut-être revoir ses propositions, mais elle est déterminée à poursuivre le mouvement de grève. Écoutez Laurent Brun, secrétaire général de la CGT cheminots.
Est-ce une division sur le calendrier ou est-ce une division plus profonde sur l'appréciation de la loi? Jusqu'à présent, nous avons tous la même appréciation de la loi et de ce qui ressort des négociations, que ce soit avec le gouvernement ou avec la direction. Donc on va voir s'il y a des changements de posture par rapport à ça. Et si ensuite il y a une division sur le calendrier, ben ça restera une division sur le calendrier. Voilà. Effectivement, s'il y avait aujourd'hui un syndicat de la SNCF qui dise cette réforme est géniale et les négociations qu'on a eues nous font sauter de joie, oui, ça m'inquiéterait beaucoup. Je vous garantis que ça m'inquiéterait beaucoup. Si ensuite il y a une division sur le calendrier, ben, ma foi, chacun assumera ses positions vis-à-vis des cheminots et puis gérera à sa manière la suite de la bataille. Parce que de toute façon, à partir du moment où tout le monde est mécontent de la réforme, il faudra bien qu'il y ait une suite à la bataille. Et nous, on restera sur notre position qu'il faut continuer la grève.
Laurent Brun de la CGT au micro de Hakim Kasmi. L'ouverture d'une maison des médias libres à Paris, libre au sens d'indépendant financièrement. L'idée est née il y a 3 ans et le projet se précise. Il est porté notamment par Mediapart et par d'autres médias marqués à gauche. Ils espèrent mutualiser leurs moyens pour mener à bien leurs enquêtes et instaurer aussi un lien avec les citoyens. Ce projet ambitieux est censé voir le jour en 2021 ou 2022, Marie Frumholz, grâce au soutien d'un mécène, Olivier Legrain.
Ancien militant communiste passé psychothérapeute, Olivier Legrain a fait fortune dans l'industrie et à 65 ans, il se lance aujourd'hui dans un nouveau projet, la Maison des médias libres, avec l'ambition de transformer les 8200 m² d'un ancien transformateur électrique en un lieu de contre-pouvoir ouvert à tous.
Mon rôle, c'est de mettre une grande partie de mon patrimoine pour que ça existe. Mon rôle, c'est de porter ce projet jusqu'à ce qu'on gagne si on doit gagner. Et puis derrière, ça sera de participer à la vie de ce projet, au fait qu'il devienne un vrai lieu de vie entre les gens qui vivront, les gens qui l'utiliseront et les résidents du 11e et du 20e.
Mediapart, Politis et Alternatives économiques sont déjà prêts à y installer leur rédaction. Au total, 35 médias seraient intéressés. L'idée est de mutualiser leurs moyens et d'inciter les grands à faire émerger les petits. Le projet prévoit des salles de conférences et de projections, une librairie et même un musée de la liberté de la presse, mais un seul studio d'enregistrement et de tournage. De quoi laisser dubitatifs les youtubeurs, les web radios et les nouveaux acteurs du journalisme multimédia, comme Geoffroy Husson de l'application Les Croissants.
Là, on sent qu'il y a une véritable envie. Après, est-ce que les moyens sont derrière ? C'est ça qu'il va falloir regarder. Est-ce que ce sera adapté à des nouveaux médias qui viennent de se lancer ? C'est une vraie question.
La ville de Paris devrait arbitrer avant la fin de l'année entre les 4 candidats à la réhabilitation du Transfo, boulevard de Charonne. 3 promoteurs immobiliers se battent également pour récupérer les lieux.
Et l'on passe des médias libres au théâtre engagé avec vous, Cécile de Kervas-Doué, bonsoir.
Bonsoir.
Un démocrate, c'est le titre de la pièce présentée en ce moment à Paris par Julie Timmerman. La dramaturge et metteuse en scène s'est passionnée pour le parcours d'Edward Bernays, grand gourou de la communication en Amérique dès les années 20. Ce neveu de Sigmund Freud avait théorisé et mis en pratique la manipulation des foules, Cécile.
Et le paradoxe, c'est que le plus grand échec d'Edward Bernays, c'est d'avoir été finalement oublié de l'opinion publique, alors même que l'opinion publique, c'était justement son fonds de commerce. C'est lui qui, dans les années 20, a théorisé les découvertes de Gustave Le Bon sur la psychologie des foules et bien sûr celle de son oncle Sigmund Freud pour mieux manipuler les masses. C'était son objectif. Dans les années 20, il va donc imposer, pour le compte de ses employeurs, des pianos ou des œufs et du bacon au petit déjeuner dans les familles américaines. Et il va aussi être celui qui va faire fumer les femmes, raconte Julie Timmerman, auteure de la pièce « Un démocrate ».
Son idée à lui, c'est de changer le contexte dans lequel est le client pour que le client de lui-même aille vers le produit. Donc pour ça, il faut faire croire que dans ce produit, il y a la santé ou il y a la liberté. Notamment l'épisode des cigarettes est étudié dans les universités comme un exemple type, c'est-à-dire qu'il va voir les suffragettes, il leur dit que parce que les femmes ne fumaient pas à l'époque en public, c'était mal vu, et il leur dit que la cigarette est un symbole phallique, et il organise une grande parade des torches de la liberté, un dimanche de Pâques, 1928, sur la 5e avenue, et les journalistes du monde entier sont là, ça fait le tour du monde.
L'entreprise Lucky Strike pour laquelle Edward Bernays travaille alors fera fortune, et lui avec. Et très vite, ses méthodes vont donc attirer les politiques. Joseph Goebbels notamment, autre zone d'ombre de la vie d'Edward Bernays. En 1954, c'est lui qui a renversé le pouvoir démocratiquement élu au Guatemala pour y placer, avec l'aide de la CIA, son employeur, une entreprise bananière. Et ça, ça n'a rien de dépassé aujourd'hui, continue Julie Timmerman.
Il y a eu récemment un coup de com' extraordinaire qui est vraiment un héritier de Bernays, qui date d'il y a quelques jours, où le président Macron est dans son bureau et parle du pognon de dingue que coûtent les aides sociales. Et il se trouve que la vidéo, on a l'impression que c'est une vidéo privée qui le prend presque à son insu et ça tourne sur Internet. Puis en fait, on découvre que c'est une vidéo qui émane exactement du compte Twitter de sa chargée de com'. C'est du storytelling. Il y a une chose que je dis dans le spectacle, c'est en bien ou en mal, on parle de nous et ça, c'est toujours bon pour les affaires.
Car Edward Bernays est aussi l'inventeur de ces fameuses fake news, ces contre-vérités qui ont tant influencé le référendum sur le Brexit ou encore l'élection de Donald Trump.
Mettre le doute, ça c'est une technique de Bernays qui permet de ne pas apporter des arguments contre, mais de dire « on ne sait pas ». Donc à partir du moment où on met le doute, bon, le produit peut continuer à se vendre, les lois à ne pas passer, voilà. On a fait ça pour les cigarettes, dans les années 20 puis dans les années 60, on n'est pas sûr que ça donne le cancer. Bon, aujourd'hui on a la même chose avec le diesel, on a eu la même chose avec les scandales sur les médicaments.
D'où l'importance de remettre sur scène un théâtre engagé qui donne à penser aux spectateurs, conclut la dramaturge, avec ce mince espoir que l'esprit critique ainsi forgé durant moins de 2 heures puisse peut-être perdurer après le baisser de rideau.
Un démocrate à voir jusqu'au 23 juin à la Reine Blanche à Paris. La pièce tournera dans toute la France à partir de la rentrée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur franceculture.fr. Et puis plusieurs grands lieux touristiques parisiens, dont Versailles, le musée d'Orsay ou l'Arc de Triomphe, étaient fermés aujourd'hui en raison d'une grève. Cinq syndicats appelés à protester contre un projet de réorganisation du ministère de la Culture, qu'ils accusent de vouloir se débarrasser de 1500 fonctionnaires en les plaçant sous la tutelle d'établissements publics culturels. Le ministère dément. Météo France prévoit un mercredi estival avec un grand soleil, quelques averses tout de même sur les Pyrénées, les Alpes et la montagne Corse. Il fera 12 à 22 degrés le matin, 16 à 28 l'après-midi sur la moitié nord, 28 à 35 plus au sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.